rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de votre énervé du soir, le premier de la semaine, 22h minuit, 2h de direct, avec ce soir au programme des mères de cinéma. Avec vous, Marie Castille, mention char, vous signez La Fête des Mères. Le film sort en salle mercredi prochain. Timing impeccable, hein, la semaine de La Fête des Mères, qui n'a pas été créée par Pétain. C'est ce qu'on apprend entre autres dans ce film choral, une sorte de bal des actrices, de Nicole Garcia qui fait des claquettes à Marie-Christine Barrault qui perd la tête, en passant par Audrey Fleurot en présidente de la République Baby Blues. Et vous, derrière la caméra, Marie Castille, mention char, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Vanessa Philo, qui compte aussi une histoire de mère aimante et défaillante dans Gueule d'Ange, premier film, sélection officielle Caméra d'Or à Cannes avec Marion Cotillard, comme on ne l'a jamais vu, entre Lindsay Lohan et une Marilyn Monroe du Sud, filmé, sublimé par vous, Vanessa Philo, bonsoir.
Bonsoir.
22h30, c'est l'instant V, c'est la musique live, c'est Valy.
C'est les groupes palatines qui chantent une ode à Paris, entre autres. Ça raconte quoi?
Peut-être Lost in Translation pour un Français dans Paris, finalement. Donc c'est comme se voir à travers un Américain qui se retrouve dans Paris, mais en étant soi-même parisien. Ça peut être l'état d'esprit de pas mal de gens dans Paris.
Ben c'est un peu moi. En même temps, je ne comprends rien non plus. Mais la musique est top. Deux titres de Palatine à 22h30.
Parfait. 23h, le journal. On va faire une pause. 23h15, on revient avec des invités tout neufs pour le énerver la suite. Ce soir, dossier social et politique. Convergence des luttes, fin des syndicats à la veille de la journée de grève nationale des fonctionnaires demain. Christophe Bourseiller.
Écoutez camarades, faites un petit effort. Hein. On va essayer de parler un peu justement de cette convergence des luttes. Est-ce que c'est la fin des syndicats ou pas? Ou peut-être pas. Enfin, alors pour en parler, ils seront quatre. Il y aura nous deux qui sommes quand même assez au parfum sur la question. Et puis il y aura également Clémentine Autain, députée France Insoumise, directrice de la revue communiste Regard. Il y aura également Fabien Villedieu, cheminot, porte-parole de Sudrail. Et puis il y aura Charles Consigny, journaliste au Point, et Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Voilà,
Je sais tout.
Très équitable comme
très plateau, équitable, oui, c'est vraiment la parité, tout est respecté.
C'est ça, un côté suisse.
Le NRV, ça peut commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
La Fête des Mères, c'est pour vous, Marie Castille-Mansonchard. C'est votre cinquième film. Gueule d'Ange, ça c'est pour vous, Vanessa Philo. C'est votre premier film. Les deux sortent mercredi prochain. Vous vous souvenez de la sortie de votre premier film, Marie Castille-Mansonchard, en 2012? Ça s'appelait d'ailleurs Ma Première Fois.
Tout à fait, oui. Et on se souvient souvent de ces premières fois.
Ah ouais, c'est pour ça que je vous pose la question.
Je m'en souviens. Voilà. C'est des moments, mais à chaque fois, c'est un peu la même chose.
Oui, mais quand même.
Et je pense que pour Vanessa, ça doit être un moment très spécial. C'est le moment où on lâche son film et puis et le mystère du public, le mystère du désir du public.
Vous étiez dans la salle le mercredi à 9h du matin?
Oui, tout à fait.
Dans quelle salle?
Au hall, bien sûr.
Vous irez dans une salle aussi, Vanessa Philo?
Au hall, normalement.
Donc, à 9h du matin.
Alors, dites-nous pourquoi au hall?
On va rencontrer la réalisatrice, on va au hall.
Mais pourquoi? Je peux poser la question, bien pourquoi sûr. Au hall?
En fait, c'est une espèce de rendez-vous du cinéma français. Les sorties, il y a tous les distributeurs qui sont là, qui sortent un film, en tout cas, le mercredi. Et très symboliquement, parce qu'on peut pas décider de la carrière d'un film sur le 9h des Halles, mais quand même, ça donne un petit signal et voilà, tout le monde est là.
C'était difficile à monter le premier film pour vous? Pas tellement, remarquez, vous avez un passé de productrice, puis de scénariste, avant de devenir réalisatrice, donc vous étiez quand même bien rompue à l'exercice.
Oui, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance pour le premier, parce que c'est vrai que je sortais de l'aventure de la première étoile, que j'avais coécrit et produit. J'avais écrit Ma Première Fois en me disant, voilà, si un distributeur a un coup de cœur pour ce film, ben pourquoi pas. Et je l'ai envoyé à deux distributeurs.
Et bingo.
Donc celui de Gueule d'Ange.
De Gueule d'Ange,
Et qui a adoré le scénario et qui m'a dit on y va. Donc voilà. Et s'il m'avait dit je pense que je l'aurais mis dans un tiroir et puis je serais passée à autre chose.
Mais ça fait combien de temps pour monter ce premier film avec Marion Cotillard? Ça a dû aider à un moment donné, mais combien de temps?
Alors le film pour se monter, ça a mis 4 ans à peu près. Voilà, 4 ans et Marion est dans l'aventure depuis un an maintenant.
Ça s'est débloqué à ce moment-là quand même? Quelque chose s'est débloqué?
Il y a des choses qui se sont débloquées en fait au début, assez vite. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de moment comme ça, un peu de stand-by. C'est pas toujours explicable. Et après, le premier déclencheur, ça a été le CNC. Voilà. Ouais. Et puis après, évidemment, la rencontre avec Marion.
Marion Cotillard.
Avec Marion Cotillard, oui.
Alors vous, Marie Castille, mention char, c'est un défilé pour cette fête des mères. Clotilde Courau, Nicole Garcia, Marie-Christine Barrault, Audrey Fleurot, Pascal Arbillot, j'en passe, Vincent Dedienne et d'autres. Ça aide aussi, non?
Oui, c'était un casting formidable à réunir, en fait. Ouais. Et parce que c'est des familles très différentes.
Ah oui, ils viennent de milieux différents du cinéma. C'est le premier film de Vincent Dedienne.
Premier film de Vincent Dedienne. Et puis, oui, des hommes aussi différents aussi que Gustave Carverne.
Ouais, qui viennent d'un autre univers.
Voilà, et donc, c'était un casting très, très jouissif à faire.
Ça va pas être facile non plus, hein, vu les plannings des uns et des autres.
Voilà, mais ça c'était l'histoire de ma première assistante, ça a été un petit peu un casse-tête oui, pour elle.
Vanessa Filovou, vous rentrez de Cannes, le film était présenté, sélection officielle Caméra d'Or, c'est ça?
C'était présenté à un certain regard.
Un certain regard, oui, j'évite pour la Caméra d'Or, disons. Qu'est-ce qui vous a marqué sur place?
En fait, on a terminé le film il n'y a pas très longtemps. Donc on est arrivé à Cannes et c'était la première fois qu'on le montrait à un public. Donc, ce qui m'a marqué, c'est, je crois que c'est cette émotion qui est assez indescriptible. Et puis, c'était aussi la première fois que la petite fille qui joue dans le film découvrait le film. Donc, ça a été, je dirais, une bourrasque d'émotions pendant quelques jours comme ça.
Le film a été acheté à l'étranger? On le sait ça déjà ou pas?
Oui, alors j'ai entendu parler de ça, mais j'en sais pas trop plus, donc je vais pas.
L'exercice des conférences de presse, comment on vit ça?
Alors il n'y a pas de conférence de presse pour un certain regard. On a une promo très intense puisque le film sort mercredi, donc tout s'est passé en même temps. Mais non, c'était assez génial.
Maquillage, coiffure, robe, tout ça.
Oui, ça fait aussi partie de Cannes.
Bah ouais, ça fait aussi partie de Cannes.
Oui, j'avoue. Non, ça c'était bien aussi, c'était agréable pour une fois.
Vous allez à Cannes aussi, en tant que productrice, scénariste et réalisatrice,
Marie-Castille
Mention-Char. Oui. Vous y êtes allée, là?
Oui, bien sûr, oui. Ouais. Quelques jours.
Pour faire quoi?
Pour parler de mes prochaines productions, parce que je continue à produire les autres.
Bien sûr, ouais.
Donc j'ai deux films qui sont en financement, donc j'ai arpenté la croisette pour aller chercher des partenaires sur ces films-là.
Toutes les deux, vous avez monté, vous savez, les marches pendant le jour, la journée des femmes, vous avez fait partie du casting?
Oui.
Vanessa Filou?
Oui, j'y étais avec Marion.
C'était comment, pour vous?
C'était assez impressionnant, en fait, de voir toutes ces femmes réunies comme ça, ces 82 femmes. Une impression d'un moment comme ça, suspendu, d'une image aussi impactante. C'était très très fort. C'était nécessaire, je pense.
Marie-Cassie Mention-Char?
Alors, je n'y étais pas et pas si mécontente que ça de ne pas y être.
Ah bon? Pour quelle raison? Un bémol. Pour quelle raison?
Parce que je trouve que c'est bien des femmes sur les marches, mais je trouve que c'est mieux encore qu'elles soient dans les sélections.
Oui, cette année, il n'y en avait pas encore beaucoup.
Voilà.
Mais c'est quand même, au niveau symbolique, quelque chose se dit, quoi.
Oui, ça reste pour moi de la communication.
Ah oui, et le discours d'Asia Argento de clôture, c'est de la communication?
Que j'ai trouvé très fort, oui. Mais moi, j'ai créé un cercle féminin du cinéma français il y a plus de 10 ans, donc je trouve que j'étais très en avance par rapport avec à peu près 35 femmes dans le cinéma français. On a commencé ce travail-là de réseau, d'entraide, de promotion il y a longtemps. Donc je trouve que c'est ça qu'on doit travailler et un petit peu moins la communication.
À quel moment vous avez créé donc ce cercle? Je ne le savais pas.
Il y a à peu près 10 ans. Maintenant.
Suite à un événement précis?
Non, en fait, c'est que j'ai vécu longtemps aux États-Unis où il y a une association qui s'appelle Women in Film, qui est un organisme très très important de promotion, justement, d'entraide, de réseau, un réseau très féminin, et que je trouvais que ça manquait en France. Donc voilà, avec d'autres professionnels, on a monté ce cercle.
Donc vous n'avez pas besoin de monter les marches ce jour-là, puisque vous connaissez l'histoire. Voilà. On va parler ensemble, bien sûr, de cinéma avec toutes les deux, mais juste avant, je voulais écouter cela avec vous.
Used to stand on the line. Is it a win, but not to try? Now that I know.
Marie-Cassia Monson-Char, vous savez ce qu'on écoute?
Non.
Vanessa Philo.
Oui, ouais, là, là je m'y attendais pas du tout en fait, donc je... Oui.
Qu'est-ce qu'on entend
mais
en fait?
Mais c'est gentil. Non, mais c'était mon groupe de musique qui s'appelle Smoking Smoking.
Qui continue d'ailleurs.
Là, on a mis un peu de choses en stand-by parce que le cinéma voilà, me prend tout mon temps. Mais par contre, mon binôme musical a composé la musique du film avec Olivier Coursier d'Aaron. Voilà.
Et
Aaron,
il y a une petite surprise tout à l'heure.
Et Aaron, que vous avez, non pas créé, mais que vous avez... Vous avez provoqué, disons, la rencontre de ce groupe.
Oui, oui.
Et c'est après, vous qui êtes chargé de l'image.
Et ouais, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec eux pendant 5, 6 ans, 7 ans. Ouais.
Donc d'un côté, une productrice, scénariste, réalisatrice. De l'autre côté, une clipeuse, photographe et aujourd'hui réalisatrice. Man, la soul pop londonienne de Jungle fait son comeback. Ce sera le 24 mai prochain au festival Solidays à Paris.
Rendez-vous.
Mais toi?
Quoi, moi?
Non,
Nat, ma mère, elle est pas parfaite.
Arrête.
Tu déconnes. Tu étais simple et douillet, la mère refuge.
Exactement. Alors le terme est très bien choisi, mère refuge.
Oui. Et puis surtout, elle s'intéressait à toi, tu te rends pas compte?
Ah ouais, moi aussi, hein, moi aussi, je serai la mère parfaite. Avec l'enfant que j'ai pas encore eu.
Eh bien, c'est pas gagné, cette fête des mères. Un extrait de votre nouveau film, Marie-Castille Mention-Char, sorti en salle mercredi prochain, un film choral où tous les cas de figure sont présentés. Mère aimante, défaillante, mère présidente de la République, mère possessive, débordée. Elles sont toutes là dans votre film, sauf la mère dont on va parler tout à l'heure, qui est dans le film de Vanessa Philo. Donc, toutes dans ce film, avec leur fils et leur fille, bien décidés à leur faire la fête. Un film choral avec comme fil rouge le titre « La fête des mères ». On a même un cours sur l'histoire de cette fête qu'on attribue au maréchal Pétain. C'est important de rétablir la vérité.
Mais oui, surtout quand je vois la réaction, parce que là, on a fait une grosse tournée en province, et le nombre de femmes qui nous disent « ma mère nous interdisait de lui souhaiter la fête des mères parce que créée par Pétain », donc en fait, il a fait, oui, beaucoup de tort, cet homme-là, et pas seulement celui qu'on connaît. Donc, réaliser en fait que c'est une femme qui a créé cette
alors,
fête.
Alors qui a créé la fête des mères ?
Alors elle s'appelait Anna Jarvis et elle l'a créée par amour et en hommage à sa mère qui était une femme qui a soigné pendant la guerre de sécession les blessés des deux camps. C'était une femme de paix et elle avait un amour immense pour sa maman et quand elle a disparu, elle a voulu voilà créer une fête, un jour très symbolique mais qu'elle aurait d'ailleurs appelé qu'on aurait dû traduire par la fête de la mère. C'est vraiment la fête de sa mère et quelque chose de très intime. Et puis quand elle a vu en fait que cette fête est devenue aussi commerciale, mercantile, parce que les fleuristes, eux, ont tout de suite compris que c'était une bonne affaire, elle a passé le reste de sa vie à vouloir l'abolir. Et elle est morte dans un asile sans avoir réussi à abolir cette fête.
Vous connaissiez ça, Anessa Filho?
Non. Non, moi, j'écoute justement.
Voilà. Mais c'est vrai.
Et la fête des pères.
La fête des pères.
On s'en fout des pères. Je dis ça parce que c'est dans le film. Parce qu'à un moment donné.
On s'en fout de la fête des pères.
C'est dans le film. Parce qu'à un moment donné, il y a une institutrice qui dit devant toutes les mères des parents d'élèves qu'il n'y aura pas de fête des mères parce que c'est trop compliqué au mot pour
qu'il n'y aura pas de cadeau. Pas de fête des mères.
Il n'y aura pas de cadeau pour la fête des mères parce que c'est trop compliqué.
Si, les cravates.
Ben non, il n'y aura rien. Et donc, quelqu'un dit et les pères. Et là, il y a une femme qui dit on s'en fout de la fête des pères. Bon, fête des mères, bande annonce.
Viens, on fait un bébé.
N'importe quoi.
Oh putain. C'est quoi ce délire? T'es enceinte?
Mais non, c'est pas un test de grossesse.
Maman? Pourquoi tu réponds pas? Je t'ai appelé 4 fois depuis ce matin, là.
Corniche pas. T'as toujours été trop sensible.
Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant un Puccini, c'est grâce à ma mère.
Je suis pas à la hauteur, je le sais, tu le sens.
Tu es sa maman. Et s'il pourrait parler, il te dirait relax, maman. Je t'aime.
En fait, moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai. C'est quoi le plus indulgent avec les pères? Enfin, avec les hommes en général, d'ailleurs.
T'as vu comme tu serais belle?
N'importe quoi. Vous avez des enfants, vous?
Non, pas encore.
Alors, dans ce film, on reconnaît Nicole Garcia, victime d'un AVC surprotégé par son fils Vincent de Dienne. Il y a Audrey Fleurot, présidente de la République en baby blues. Clotilde Courault en journaliste. Olivia Cotte, qui est prof d'histoire de l'art, qui ne veut pas d'enfant de son mec, qui pourrait presque avoir l'âge de son fils si elle en avait eu un. Bref, un film choral. C'est votre côté Lelouch?
C'est ça.
Ben voilà, c'est parfait.
J'ai été très influencée par des films de Lelouch quand j'ai grandi, voilà. Toute une vie, ça reste un de mes films fétiches. Donc, et puis il y en a d'autres, pas des moindres d'ailleurs.
Sauter,
mais c'était pas tout à fait la même configuration quand même, parce qu'il y avait toujours un groupe, mais avec une histoire.
Et un personnage dominant, ouais. Alors vous pensez à quoi?
Non, Robert Altman.
Ah bah oui, bah oui.
Shortcuts, c'est pour moi c'est un grand film choral, voilà. Donc c'est un peu casse-gueule. Hein.
C'est hyper casse-gueule parce que là il y a combien de mères, il y a combien de personnages,
il y a
au moins
une vingtaine de personnages.
Ouais. Il faut que tout le monde puisse exister. Heureusement que vous êtes scénariste. Quelle est la difficulté de l'écriture pour faire exister une vingtaine de personnages et ensuite en termes de montage, parce que le montage doit être dingue en fait.
34 versions de montage. Oui.
34 versions de montage. Et combien de monteurs pour le faire ou de monteuses?
Un seul.
Il est exsangue, il a perdu 15 kilos.
Pas tout à fait, mais c'est un comment dire?
Un casse-tête énorme.
Oui, mais heureusement j'ai un monteur qui est génial et on a pris beaucoup de plaisir à monter ce film, mais en même temps ça a été vraiment très très compliqué parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'on réécrit, on peut réécrire un film au montage,
bien entendu,
mais celui-là encore plus que les autres. Et surtout on se rend compte de ce qu'on a écrit et puis tourné, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça s'assemble, parce que c'est ça un film choral, il faut qu'on passe d'un personnage à un autre, qui fasse partie de la même histoire ensemble. ensemble, même s'ils ne se croisent pas. Et c'est là toute la difficulté. Mais ça ressemble à la vie. Et moi, c'est pour ça que j'aime ce genre de film aussi.
Alors, La Fête des Mères, c'est un film sur la maternité, sur les relations entre les générations, ce que les enfants doivent à leur mère. Et vous, qu'est-ce que ce film lui doit à votre mère ?
Qu'est-ce qu'il doit à ma mère ? Oh là ! C'est marrant parce que ce film, dans les débats qu'on a après les projections, voilà, on a toujours des questions très intimes, en fait.
Oui,
plus que les autres films.
Vous allez voir, j'en ai pour elle aussi, pour Vanessa Fillon. Oula. Alors.
Attention. tout et rien, j'ai envie de dire. Forcément, j'ai écrit ce film et j'ai pensé à ces personnages. Elle est dans aucun des personnages et elle est partout, mais comme moi. Donc voilà, la relation qu'on a à sa mère, ça, c'est quelque chose qu'on transmet en plus. Si on décide d'avoir des enfants, moi j'en ai deux, forcément, la manière dont on a été élevé et la relation qu'on
ils
a construit avec sa mère.
Ils vous le reprocheront, il n'y a aucun problème.
Exactement. Donc je dis, l'autre jour on m'a demandé par rapport à ma mère, j'ai dit j'ai eu une mère imparfaite et je suis une mère imparfaite.
Il n'y a pas de mère parfaite.
Exactement.
Ce qui m'a intéressé dans le film, c'est quand je l'ai regardé, j'ai pensé au film précédent que vous aviez fait. C'était en 2016, a priori, il n'y a rien à voir. Ça s'appelle Le ciel attendra. Ça racontait l'embrigadement djihadiste hein, de deux adolescentes françaises de banlieue. Ça mettait aussi en scène le rôle des parents, leur désarroi, la souffrance, je me souviens, de la mère de Mélanie. Extrait.
Laisse-moi partir, je t'en supplie, maman, sinon on est tous perdus.
Tu te rends compte de ce que tu dis ? On dirait une folle. Une fanatique.
Fais-toi la balle ! Fais-toi la balle ! Tu comprends rien ? On va tous mourir, c'est la fin du monde ! Mais attends, maman, c'est la fin du monde ! T'es qu'une mécréante, tu vas aller en enfer, tu pourras jamais accéder au paradis.
Mais je m'en fous de ton paradis !
C'était la fête hein, pour Sandrine Bonnaire, qui était donc la mère de Mélanie dans le film. Il y a un lien entre La Fête des Mères et Le ciel attendra ?
Je pense qu'il y a un lien entre tous mes films. Je ne sais pas lequel précisément, mais d'ailleurs, dans la Fête des Mères, il y a un clin d'œil au ciel attendra entre ces deux personnages de Naomi et Noémie, mes deux comédiennes, qui se croisent, voilà, et l'une est enceinte. Et je suis toujours très touchée quand des spectatrices viennent me voir en me disant on a reconnu et ça nous a fait du bien de les voir se croiser enfin parce que dans Le ciel attendra elles se croisaient jamais. Voilà, c'était mon petit fil rouge qui continue.
Le film aujourd'hui, il continue à circuler.
Tout à fait, oui.
Il est programmé dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges ou...
Je fais encore des débats, enfin je suis encore sollicitée pour faire des débats avec des classes de 3e et de lycée autour du film, ouais.
Vous connaissiez ce film, Vanessa Fillon ?
Ah, moi je l'ai adoré. C'est ce que je vous disais juste tout à l'heure, off, c'est vraiment un film qui m'a bouleversée.
À quel niveau en fait ?
Bah parce que je le trouvais extrêmement bien interprété et le sujet évidemment dont il traite. Non, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée.
Et c'est assez beau justement de retrouver un clin d'œil, enfin une citation dans ce film-là. Est-ce que pour ce film-là, donc La Fête des Mères, les personnages sont écrits aussi en fonction des actrices, en fonction de leur parcours, de leur vie ?
Oui, souvent. Souvent, je lis beaucoup les interviews des comédiens ou des comédiennes avec qui je vais travailler. Je m'inspire parfois un petit peu de.
Donc Carmen Maura en Mère parfaite, c'était le cas ?
Pas du tout. Carmen m'a fait la grande générosité quand on tournait de me parler de ça, de son propre rapport à la maternité et l'histoire qu'elle raconte dans le film, c'est son histoire en fait.
En Espagne, donc.
Oui, tout à fait. De dire que quand elle a accouché de sa fille le matin, au lieu de demander à la voir, elle a demandé son petit déjeuner et elle l'avait jamais raconté à sa propre fille. Donc je lui ai dit, Carmen, est-ce que tu me ferais l'honneur, le privilège de raconter ça en impro à Audrey. Et c'est ce qu'elle a fait, et Audrey n'était pas au courant.
Suffoquée, on le voit à l'écran.
Ouais. Et voilà, donc comme quoi la réalité rejoint la fiction.
Et Nicole Garcia qui danse des claquettes, c'est quoi l'idée?
Elle y arrive et elle avait jamais fait de claquettes et elle a pris ça très au sérieux parce que Nicole est voilà une bosseuse et
professionnelle.
Je crois qu'elle a pris du plaisir aussi à le faire et c'était tellement tellement agréable de la voir.
Parce que pendant tout le film justement, enfin on voit elle va reconquérir son corps après son AVC, donc elle va faire des cours de claquettes et vous filmez ou bien le corps ou bien les pieds, mais on la voit jamais véritablement en entier. À un moment donné, à un moment donné, ça arrive. Mais ça devient presque l'événement, parce que moi, je me suis dit pendant pas mal de temps, bon, elle n'y arrive pas.
Ah, vous croyez qu'elle était doublée, c'est
oui,
ça?
Oui, je me suis dit qu'on voyait le haut.
Aucune comédienne n'est doublée dans ce film, ni la femme qui fait un saut en parachute à la fin. C'est une actrice qui a plus de 80 ans et qui a fait son premier saut en parachute pour le film.
Mais c'est toujours la première fois chez vous. C'était le titre de votre film, Marie-Castille.
Mais il n'y a rien de meilleur que les premières fois.
La fête des mères, sortie en salle mercredi prochain. Vous restez avec nous, Vanessa Fillon. On va parler aussi de cinéma dans quelques instants. Tout de suite, c'est la musique, c'est l'instant V avec Valérie.
Rendez-vous.
Oui, mes invités s'appellent Palatine, quatre garçons dont le premier album est sorti il y a 2 mois à peine. Ils ont fait du bruit la semaine dernière, comme d'habitude, grâce à leur concert très remarqué à Paris. Comme d'habitude, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils passent quelque part, ça cartonne. Exemple, ils ont remporté 3 gros tremplins, les Nuits du Printemps de Bourges, celui des choristes des Eaux de Seine et aussi les Chantiers des Franco. Ensuite, Dominica et Feu Chatterton ont fait appel à eux pour leur première partie. Pas dégueulasse tout ça et ça continue cet été. La musique de Palatine rappelle celle du sud des États-Unis, le Bayou même. Pas étonnant qu'un de leurs titres s'appelle Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane. Il sonne comme du pur Americana. Et puis, il y a juste ce qu'il faut de blues, de mystère et de rêverie. Le premier titre ce soir s'appelle Paris l'ombre, Palatine dans l'énervé et en images sur franceinter.fr.
Pas des bonheurs ensoleillés, Paris ma terre m'enterrer, où vont tes eaux ensommeillées, au quoi même je vais goûter Paris. Je suis long, la nuit, je suis long. Tes pâles enseignes se réverbèrent, Paris je saigne dans tes artères, tous mes défauts seront sublimés à ta lumière, je suis ridé Paris, je suis Londres, la nuit.
Je trouverai un abri où m'enfuirai à Londres. Je t'oublierai Paris, me souviendrai de l'ombre, de mes sens interdits et sur tes ponts. Paris, tes je t'aime vont rouiller, Paris. Bonheur ensoleillé, Paris ma terre m'a enterré.
J'adore ce groupe, il s'appelle Palatine, Vincent Hérard au guitare-voix, Jean-Baptiste Soulard au clavier et guitare, Adrien Degas à la contrebasse et puis Thomas Milto à la batterie. Alors Thomas, tu as invité
on dirait une maîtresse d'école ou une maîtresse SM, je ne sais pas.
Non, Thomas, les deux au choix, hein, pourquoi pas, j'assume. Tu as invité Vanessa Philo au concert de Café La Danse la semaine dernière et elle n'a pas pu venir parce qu'elle était à Cannes. J'apprends aujourd'hui que vous étiez dans le groupe avec elle, Smoking Smoking. Racontez-nous.
Oui, effectivement, c'est une surprise pour moi aujourd'hui de me retrouver là avec Vanessa parce qu'effectivement, il y a à peu près 5 ans, je crois, on a partagé justement la scène du Café de la Danse ensemble et c'est un grand souvenir.
Vanessa, vous souvenez ?
Ah bah ça, je m'en souviens très bien. C'était un peu le dernier concert qu'on ait fait avec Smoking Smoking. C'était un événement pour nous et forcément, on a partagé avec Thomas beaucoup de morceaux d'intimité comme ça. Parce que la musique aussi crée.
Et voilà. C'est la même chose au cinéma quand vous êtes sur un plateau, cette espèce de l'esprit, on est très très
connivence. Oui, l'esprit de groupe, quoi, l'esprit de troupe. Mmh. Ouais. Alors c'est complètement différent quand même, comme ambiance quand même, la musique et le cinéma, je trouve. Mais en tous les cas, avec certaines personnes, il y a cette alchimie magique qu'on pouvait avoir dans le groupe et avec Thomas en l'occurrence.
Donc, c'était le côté sacré soirée du énervé.
Ouais, mais j'adore, mais je trouve ça fabuleux. Alors, le grand parent de nuit, c'est une papillon de nuit qui ne vit qu'une semaine. Pourquoi cette référence à quelque chose de l'éphémère ? C'est le showbiz, Vincent ? Qu'est-ce que c'est ?
Non, pas le showbiz. Je suis bien trop nouveau dans le showbiz pour en découvrir l'éphémérité. Mais non, c'était plutôt la référence à la nuit, aux animaux, aux créatures de la nuit, qui se veulent très grandes et très belles, mais qui ne durent pas très longtemps. Donc c'est plutôt aux gens de la nuit, plutôt.
Et vous, c'est votre autoportrait sur la pochette, c'est rouge avec une tête noire, avec les yeux. Bon, vous n'êtes pas aussi noir que ça, il faut le dire.
Merci.
Mais avec... Non, mais parce que en vous regardant... Je vois peut-être, et comme je sais que c'est vous qui avez fait la pochette, c'est quoi ce portrait avec les yeux perçants ?
C'était la nuit en fait, c'est que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, il y a un fond très coloré et très vif.
Rouge.
Et la personne, le personnage, lui est très sombre, aussi sombre que la nuit, et il n'a pas de trait de visage. Quoi.
C'est juste, exactement, c'est juste les
ombre,
yeux.
C'est une ombre, voilà. C'est comme ça plutôt que je vois les gens en fait, la nuit, ou que j'ai l'impression qu'on me voit.
D'accord. En tout cas, j'aime beaucoup. Le deuxième titre s'appelle « Comme ce rouge me plaît ». C'est Palatine sur France Inter. Et bien sûr, demain sur la page Facebook du Énervé.
Haro sur ta peau, sur ta bouche, comme ce rouge me plaît, comme l'automne à l'affût. Je ne bouge plus de ta peau, de ton dos, comme ce rouge me plaît. Regarde bien dans l'eau, vois comme il glisse. Tous les défauts de ta police. Regarde bien dans l'eau, oh mon narcisse. Tous les défauts de ta police. Toutes ces routes que je ferai miennes, les fesses bleu de tes veines, ongles incarnés, membres fantômes, je les connais. La cicatrice qu'un cutter a laissée il y a 10 ans, jeu d'enfant lassé. Petite, tu sais, je vais rester, car ce rouge me plaît. Des reflets, des miroirs et autres surfaces lisses te racontent des histoires sur l'état de ta peau. Moi je précipite à l'endroit de ton corps le plus chaud.
Génial. Merci. C'est le groupe Palatine. Leur album Grands-parents de nuit est disponible chez Yotanka Pias. Ils sont en concert le 8 juin à La Rochelle, le 21 juin à Verdun, en première partie de Dominica, encore une fois, et le 29 à Saint-Étienne dans le cadre du festival Paroles et Musique. Prise de son Nicolas Slimani, Tristan Gratelon et Antoine Teboul. À la vidéo ce soir, c'est Dominique Philippot. Et demain, c'est le groupe Minuit.
Programmation signée merci. Marion Guilbault. Merci à vous.
Merci beaucoup. Rendez-vous.
C'est la police des enfants.
Bonjour Marlène. Bonjour Ellie. T'as bien grandi, dis-moi.
Ma maman, elle est super et moi, je vais très bien.
Le nouveau rendez-vous.
C'est bien. Plus jamais ils vont me séparer.
Sur France Inter.
Premier film, et c'est vraiment une réussite, Vanessa Philo, Gueule d'ange, sort en salle mercredi prochain, après avoir été en sélection officielle Un certain regard à Cannes. Gueule d'ange avec Marion Cotillard, génial vraiment, dans le rôle de Marlène, une jeune femme instable, portée sur l'alcool, entre Lindsay Lohan et un fantasme de Marilyn Monroe. À Cannes, Marion Cotillard, parlez de vous, et elle vous resitue.
Quand j'ai rencontré Vanessa, il y avait tout ce que j'attends aujourd'hui d'un réalisateur. C'est totalement vital. Quand elle m'a parlé de son envie de cinéma qui durait depuis toujours, en fait, Vanessa, elle fait de l'image, des photos, du moyen-métrage. Et le passage au long, c'était quelque chose qu'elle portait en elle depuis tellement longtemps. Et c'est bouleversant. Ouais.
photos, courts-métrages, elle a oublié de dire clips. Le cinéma que vous portez en vous depuis longtemps, depuis toujours, depuis quand en fait, Vanessa Philo?
Depuis toute petite. Toute petite. Je pense que c'était à 12-13 ans que j'ai décidé vraiment de devenir réalisatrice. Voilà, c'était une décision qui était ferme et nette. J'avais eu un énorme choc. Enfin, j'avais ressenti un énorme choc en découvrant Bleu de Kiesowski et en découvrant aussi la musique de Preissner qui l'accompagnait. Et j'arrivais tellement pas à me défaire de cette émotion en fait qui m'emportait que j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre et à raconter des histoires. À écrire des histoires et puis après très tôt j'avais entre les mains un caméscope, un appareil photo et j'ai commencé à fabriquer des images et mettre en scène le plus souvent possible.
Mettre en scène qui? Sa famille, ses amis,
oui,
ses copains?
Oui, c'est-à-dire que tous les week-ends était un rendez-vous de mise en scène où j'imposais aux gens de devenir mes comédiens à l'espace d'un week-end et je faisais que ça en fait, de tous mes week-ends en fait.
Vous aussi, Marie Castille Mention-Charles, il y a eu un film comme ça qui a été un déclencheur?
La leçon de piano de Jane Campion, ouais, un film qui voilà a laissé des traces indubitablement. Moi, j'écrivais.
Vous étiez productrice, scénariste.
Non, ouais. Et avant ça, en fait, quand j'étais adolescente, ouais, j'écrivais, mais il y avait peut-être moins d'accès à l'image encore ou au caméscope à ce moment-là. Donc voilà, j'écrivais.
Vous avez tenté de faire la Fémis?
Non. Non, en fait, j'ai fait un bac cinéma et puis après, j'ai fait du théâtre, mais pour appréhender...
Comme actrice?
Oui, mais pour vraiment appréhender la mise en scène. Oui, j'étais vraiment pas du tout une bonne actrice et ça m'intéressait pas plus que ça. Mais par contre, essayer de comprendre ce dont un acteur avait besoin, peut-être, pour après au mieux diriger, oui, ça c'est quelque chose qui m'intéressait.
Oui, donc tout a été réfléchi. Marlène vit seule dans une station balnéaire avec sa fille qui a 8 ans, surnommée Gueule d'Ange, une relation où les rôles s'inversent souvent. La gamine protège sa mère, lui chante des chansons pour s'endormir, sa mère l'emmène en boîte, la maquille, joue à la poupée avec elle et puis la rejette en même temps. Bref, une relation d'amour et de manque d'amour jusqu'au jour où Marlène, la mère, disparaît après une soirée plutôt en boîte de nuit. Gueule d'Ange va vivre seule, toute seule, et ça dérape sérieusement. Est-ce que sa mère est morte? Un premier film, c'est toujours chargé personnellement. Vous, quel rapport avec cette histoire que vous avez voulu porter à l'écran pour ce premier film, Vanessa Philo?
Je crois que c'était le besoin de raconter la dépendance, l'abandon aussi, le manque d'amour, tous ces sentiments qui font l'insécurité. Après, c'est une fiction.
Vous la sentez, la question, la
oui,
question
c'est
intime.
Pour ça, je la précède tout de suite. Non, c'est une fiction. Moi, j'ai eu la chance d'être vraiment, enfin, venir d'une famille qui m'a aimée, qui m'a protégée. Et heureusement, après, c'est une histoire qui me bouleverse. Et évidemment, qu'il y a dans ce film beaucoup de choses qui me sont très personnelles et très intimes. Des peurs aussi qui sont les miennes. Et après, je pense être d'une nature hypersensible et hyper émotive. Et je ne sais pas quel aurait été mon chemin si je n'avais pas eu cette chance-là, moi, d'être accompagnée, d'être protégée. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est... On vit pas dans un monde facile, on vit dans un monde qui est quand même assez brutal et on est tous capables en fait de basculer à un moment donné. Voilà.
Et sur un tournage, vous êtes autoritaire? Vous savez ce que vous voulez?
Je peux l'être. Ouais. Oui, j'avoue.
Et vous, Marie-Cassie Mention-Charles?
Oui, je le suis assez, oui.
C'est parfait pour diriger de toute façon. Marlène, donc jouée par Marion Cotillard, est blonde, le corps moulé dans des mini-robes, maquillage avec paillettes. C'est à la fois cheap mais sublime et ça fait des plans magnifiques. Je pensais à une photographe, notamment Delphine Crutter, pour créer ce personnage de fille bimbo qui passe son temps à mater des programmes de télé-réalité à la télévision. Vous lui avez montré des modèles. Je pensais vraiment à un moment donné la coiffure, la façon, même l'incarnation de la peau. Je pensais vraiment à Lindsay Lohan, une actrice que j'ai vraiment aimée quand elle a commencé. Ouais, qu'est-ce qu'elle a regardé pour pouvoir bâtir ce physique, en fait, Vanessa
Philo. Mais en fait, je l'avais un peu imaginé, mais tout de suite, Marlène, comme une sorte d'héroïne de télé-réalité qui serait restée en coulisses. Et on en a très vite parlé avec Marion, quand on a fait connaissance. Et elle l'avait imaginé aussi comme ça, hein, dès la lecture du scénario. Et après,
Elle porte les seins très hauts, par exemple.
Oui,
comme dans la télé-réalité. Ouais, très, très
non,
haut.
Mais parce qu'après, ce sont effectivement les modèles de Marlène. Et avec toute mon équipe aussi, on a vraiment tenu compte de toutes ces aspirations qui pouvaient être les siennes. Et je sais que Marion a regardé beaucoup les anges aussi et,
cette émission
et les
formidable.
Sœurs Kardashian. Et voilà, mais pour nourrir son personnage et pour comprendre un petit peu mieux qui étaient ses idoles et ses modèles.
La jeune actrice s'appelle
Aileen
Aksoy
Etex.
Etex. Un rapport avec Etex ou pas du tout?
Non, ou alors je suis pas au courant, mais ça m'étonnerait.
Comment vous l'avez castée?
Ça a été
elle jouait un rôle de 8 ans, hein, mais elle l'avait pas, je crois. Quand,
Et elle avait même pas 8 ans, elle a eu 8 ans à la fin du tournage, toute fin du tournage. On a fait son anniversaire avec toute l'équipe, c'était aussi la fête de fin de tournage, donc c'était un moment qui était
C'est
chargé.
Beau quand le cinéma devient vraiment l'âge du... C'est une première fois, Marie-Christine Montchanchard.
Mais on a mis des mois pour la trouver. C'était pas facile parce que j'avais vraiment un fantasme de cette petite fille, mais que j'avais difficulté à décrire parce que c'était une petite fille que je voulais observatrice, avec un regard chargé d'une empathie précoce, quelque chose de mature. En même temps, c'était très subjectif tout ça. Et à un moment donné, au bout de 4-5 mois, quand Aileen est arrivée en casting, ça a été une évidence tout de suite.
Quelle scène vous l'avez fait passer pour la tester?
On a fait plusieurs scènes, dont la séquence du glacier. C'est un moment assez long, en fait, où elle mange une glace avec Julio, le personnage masculin principal.
Qu'elle va rencontrer dans la deuxième partie du film.
Qu'elle va presque reconnaître, d'une certaine façon. Et en fait, c'est parti de ce texte-là, sur une impro où j'ai senti chez elle plein de choses encore plus chargées émotionnellement, même ce que j'avais imaginé, ça dépassait en fait mes attentes. Il y a une indépendance très forte. Cette petite fille a une sorte de force comme ça, de caractère, même quelque chose de l'ordre de la résistance. Enfin, elle est bouleversante.
Vous avez travaillé avec des adolescents.
Oui, beaucoup.
Beaucoup, hein.
Sur.
Maintenant, pas sommaire, mais il y a eu beaucoup de films avec des adolescents dans la question.
Ah oui, sur Les Héritiers.
Ouais. Premier film.
C'était
troisième film.
Troisième film. Donc oui, une classe de seconde. Donc voilà, long casting pour assembler cette classe et avec beaucoup d'acteurs pas professionnels qui sortaient du lycée. Ouais.
Un film, on va dire, pas sous influence, mais dans une certaine filiation avec cette chanson qu'on entend à un moment donné du film.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi.
Sans toi, c'est la chanson du film Cléo 5 à 7 d'Agnès Varda. Que représente ce film pour qu'il soit cité par la chanson Vanessa Philo?
En fait, il représente plein de choses. Alors déjà, d'un point de vue personnel, mon premier court-métrage de bac, c'était un remake de Cléo de 5 à 7. Donc il y avait quelque chose, voilà, que je crois que la boucle était faite. Et puis après, c'est un film qui m'a bouleversée. C'est une chanson que j'aime particulièrement. Et puis j'aime beaucoup ces films portés par des héroïnes comme ça, féminines, au destin brisé. Et ce film, voilà, a une importance très personnelle pour moi. Et cette femme combative, dans cette épreuve qu'elle traverse.
Qui a un cancer dans le film.
Un cancer, et il y avait quelque chose de... Enfin voilà, Marlène, pour moi, c'est un personnage qui est rempli de failles. C'est un personnage en détresse, mais c'est une figure très très forte comme ça.
Comment elle l'a compris, ce prénom, Marion Cotillard, que vous avez choisi pour son personnage, Marlène? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Parce que je sais qu'elle travaille toujours en amont, elle cherche à connaître la vie de son personnage, du moins à l'inventer. Marlène, ça lui a évoqué quoi pour elle?
On n'a pas parlé particulièrement du prénom de Marlène, mais il y avait eu tout de suite, dès notre premier rendez-vous, je sais pas comment dire, une reconnaissance du personnage. Dès les premières minutes de notre discussion, notre échange, elle m'a parlé de Marlène avec avec un tel amour, en fait, une telle compréhension. Je crois qu'il y a quelque chose qui l'a vraiment touchée.
Agnès Varda, vous l'avez contactée pour avoir la chanson dans le film?
Alors, ce n'est pas moi qui me suis occupée de ça, pour être tout à fait honnête.
Il y a des assistants pour ça.
Oui, enfin voilà.
Vous n'avez pas cherché à la rencontrer, à lui dire ce que vous pensez du film ou...
Mais je n'ai pas eu cette occasion et en fait, j'espère secrètement...
Cannes.
Oui, mais je ne l'ai pas vue à Cannes, mais j'espère secrètement qu'elle va aller voir le film ou je ne sais pas, qu'on va faire connaissance après, j'avoue.
Alors, on n'a pas parlé encore de ce que l'on voit à l'écran. Vous filmez très souvent cadré serré sur Marlène et sa fille. Beaucoup de gros plans, comme si le reste du monde n'existait pas. Ou alors le contraire, des paysages, une station balnéaire, et elles sont au centre, complètement perdues, complètement isolées du reste du monde dans le film. Quelle est votre culture photographique? Parce qu'il y a une dimension véritablement de photographie plasticienne dans ce cinéma.
Mais je ne sais pas si c'est uniquement ma culture photographique, en tous les cas, qu'on retrouve. Je ne pourrais pas parler de références précises. Je vais aimer autant Gregory Crutzen que Francesca Woodman, que Bill Viola dans tout autre domaine. Et en même temps, je me nourris autant de poésie que d'images photographiques et cinématographiques.
C'est vous qui cadrez ?
C'est Guillaume Schiffman avec qui j'ai travaillé.
Vous n'êtes pas derrière le cadre.
On n'était jamais loin et on était très complices. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré collaborer, vraiment. Et je crois qu'on a trouvé ensemble une façon de travailler qui était idéale et qui était toujours, qui laissait toujours place aux émotions en premier plan. C'était ma première intention.
Marc-Simon Tronchard, vous cadrez ?
Non, je ne cadre pas et j'ai la chance d'avoir grandi avec ma chef-op qui cadre aussi.
Les cinq films.
Les cinq films, Myriam Lenoncourt.
J'ai vu ça, ouais.
Et ça a vraiment été, oui, un parcours, on a appris à se connaître, à ne plus presque se parler. En fait, on sait la même chose, on a envie de la même chose en même temps, et c'est tellement précieux en fait d'avoir ces yeux-là en fait, parce que
il y a des choses que vous n'aimez pas, par exemple dans le cadre, des choses que vous n'aimez pas faire, des voir, vous aimez, je sais pas, couper les gens, pas les couper, laisser de l'espace en dessus, en dessous.
Non, j'ai jamais d'idées préconçues comme ça. Je suis très, et Myriam est pareil d'ailleurs, on est très dans l'intuition,
dans l'instant, ouais.
De l'instant, le moment, le décor, voilà ce qui se passe à un moment par rapport à la séquence qu'on est en train de faire.
Et vous, Vanessa Philo, pareil ?
Alors moi, j'aime bien, de façon générale, préparer au mieux, de façon un peu maniaque. J'avoue mes plans, mais après, paradoxalement, j'aime bien perdre le contrôle sur le moment du tournage et du plateau.
Et c'est ce qu'on peut vérifier. Donc dans ce film Gueule d'ange, j'allais dire Marlène, Gueule d'ange, sorti en salle mercredi prochain, comme le vôtre, La Fête des Mères, vous, Marie Castille. Mention char. Tout de suite, on va se terminer. Quelle expression. On va se terminer. Allez. On part dans un jardin tout de suite avec Étienne Dao.
Parfum, son esprit déambule au-dessus des jasmins. Il voit le rose pour
Le Jardin sur France Inter, un extrait du dernier album d'Étienne Dao, une programmation main verte de Jean-Baptiste Audibert. Et oui, le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes avec ça.
Camarades, camarades, on veut entraver la marche des travailleurs. Ouais.
Convergence des luttes, fin des syndicats, c'est le sujet du NRV tout de suite avec Christophe Bourseiller.